Super. Bienvenue à tous dans cette session Tech Days sur les nouveaux TechXAML qui sont arrivés avec la mise à jour 8.1. On va faire les présentations avant de commencer. Donc, il faut savoir que nous, on vient de chez Itelios, qui est une SS2I spécialisée dans le commerce connecté, qui est experte dans les technologies Microsoft depuis plus de 10 ans. Donc, c'est plus de 100 collaborateurs qui sont répartis dans 3 pôles en France, dont plus 1 au Brésil. Donc, moi, je suis lead technique et architecte .NET chez Itelios.
Et je suis Romain Cornu, donc je suis développeur et j'interviens sur les parties UI et UX.
Voilà. Donc, au programme de cette session, alors, on va vous présenter en long et en large toutes les nouveautés donc, de XAML, de Windows 8.1. Donc, il y a énormément de choses qui sont arrivées, à savoir donc, le hub, le nouveau template de projet hub, plein de nouveaux contrôles, donc date picker, time picker, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie à mort. Il y a également donc, un grand lot de mises à jour qui ont été apportées en termes de performance. Vous voyez ici, on parle de flyout. Disons que cette mise à jour va résoudre la plupart de vos problèmes que vous avez pu rencontrer dans le framework Windows 8, avec des optimisations supplémentaires. Donc, je vais laisser la parole à Romain, qui va vous présenter le contexte.
Alors, donc, pour présenter un petit peu ses besoins et les réponses que Microsoft a apportées, donc, on s'est basé sur une application, donc c'est une application fictive, donc, qui est basée sur le sujet ici, ça serait une promotion de voyage. Donc sur cette appli, en fait, on va avoir différentes pages qui vont exposer différents besoins. Donc tout d'abord avec une home page qui présentera donc un contenu riche, différentes sections qui représentera les différentes catégories de notre application. Ensuite, la liste des destinations qui va nous permettre d'exposer donc une très grande donnée, hein, donc une grande collection. La page des destinations, donc qui nous sert un petit peu de fiche produit, donc pour nos destinations. La page blog, donc c'est tout simplement en fait un des blogueurs qui racontera une histoire par rapport à une destination. Et enfin, la page mon compte, donc qui est assez présente sur la majorité des applications. Donc comme je vous disais, chacune de ces parties va nous permettre d'exposer un certain nombre de besoins et les réponses que Microsoft a apportées dans cette version 8.1. Ça sera le fil conducteur de cette présentation. A noter aussi que l'application sera disponible sur le site d'Itelios, donc un petit peu après cette présentation. Donc vous serez libre, bien évidemment, de la télécharger et d'en découvrir tous les secrets. Alors, on va commencer avec la home page. Alors, donc sur cette home page, qu'est-ce qui va être présent? Donc, tout à l'heure, Maxime en parlait un petit peu. Le nouveau contrôle, le nouveau template, le hub control, la search box et la mise à jour de la feed view. On va basculer sur l'application.
Bien sûr.
Voilà, une application qui reste quand même assez simple. Donc, comme je vous disais, cette homepage qui présente un hub control, qui est une nouveauté de Windows 8.1, qui va nous permettre en fait donc d'exposer un contenu riche, différentes sections. Alors, le point intéressant de ce hub control, quels sont-ils? Donc, tout d'abord, la composition. Donc, le hub control est composé d'un header, bien évidemment personnalisable, que vous allez pouvoir donc personnaliser à vos envies. Différentes sections. L'avantage de chacune de ces sections, c'est qu'elle dispose, en fait, elle peut disposer d'une source différente, sur laquelle je vais revenir un petit peu après. Et enfin, donc, une orientation assez intéressante, car elle va vous permettre, lorsque votre vue serait rétrécie, tout simplement d'afficher, par exemple, un contenu de manière verticale. Donc, alors, tout à l'heure, je vous parlais de la composition du hub. Donc, je crois qu'on voit assez bien sur l'écran. Donc, un header bien évidemment personnalisable. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais du multi-sourcing en fait, de ces différentes sections. C'est la possibilité en fait, d'appliquer un data contexte différent en fonction des sections, ce qui n'était pas disponible par exemple avec une grid view. Donc voilà, tout cela de manière native. À noter aussi que donc la partie graphique est définie dans un data template, ce qui va vous permettre en fait de réutiliser donc bien évidemment un style, un template sur d'autres pages, sur un autre contrôle, en définissant celui-ci par exemple dans votre fichier de ressources d'application. Alors ensuite, je vais vous parler de la FleetView, donc mise à jour de la FleetView, donc petite mise à jour mais assez intéressante. Donc si on rebascule sur l'application. Donc là, on peut voir sur la deuxième partie, sur la deuxième section de notre application, donc tout simplement une flip view, donc composant assez connu en fait des développeurs Windows 8, et donc qui permet donc d'exposer un contenu, etc. Alors, quelle était la mise à jour sur celui-ci? C'était donc en fait, vous voyez, lorsque j'utilise tout simplement le doigt, j'ai en fait cette animation. Celle-ci n'était pas présente auparavant. Donc lorsqu'on faisait cet appel pour changer d'élément via le code ou avec la souris et le clavier. Donc c'est une animation que Microsoft a apportée en fait dans cette version 8.1, assez intéressante car autrefois il fallait passer par des éléments custom. Voilà, alors pour accéder à cette propriété, Donc c'est relativement simple. C'est une propriété qui est donc sur la FlipView, que vous pouvez voir ici, donc qui est Use Touch Animation for All Navigation, et donc qui est par défaut c'était à true. Donc comment dire, vous n'avez pas besoin de le paramétrer lorsque vous utilisez une FlipView, ça va être nativement prévu. Par contre, vous pouvez le désactiver si tel autre souhait. Je vais maintenant laisser la main à Maxime pour vous parler un petit peu de la Searchbox.
Voilà, donc la Searchbox, donc, quand Romain vous a présenté un peu l'application, vous avez sans doute vu ici, là, à ce niveau-là, donc, la Searchbox. La Searchbox, ça va être la nouvelle manière d'exécuter la recherche dans vos applications. Donc auparavant, si vous êtes déjà développeur dans des applications Windows 8, vous avez l'habitude d'utiliser donc, les Search Panels. Vous savez, le petit slider qui se met à droite de l'écran. Voilà. Donc dorénavant, dans les applications Windows 8.1, c'est plus la consigne à suivre. La consigne, c'est d'implémenter la Searchbox. La Searchbox, bien qu'il faille l'intégrer dans votre UI, donc c'est une certaine dose de travail, il faut savoir que l'API n'a pas du tout changé. Je vais vous montrer très rapidement. Donc, dans la Hub page, ici, vous voyez, on a la Searchbox. Donc, vous voyez ici les événements donc, que vous aviez l'habitude auparavant de handler, à savoir suggestion requested, query submitted, result suggestion chosen. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça vous permettra donc de pouvoir fournir à vos utilisateurs une liste de pré-résultats, une liste de résultats directs. Je vais vous montrer ça. Ici, typiquement, si je tape FR, voilà, on a l'autocomplétion et un résultat direct. Si je clique dessus, ça va m'amener sur le paysage de la France. Qu'est-ce que ça donne à vos utilisateurs? C'est une amélioration de l'expérience utilisateur qui est meilleure, dans le sens où la recherche est directement accessible par eux. Ils n'ont pas besoin d'aller dans le search pane pour aller faire la recherche dans vos applications. Donc ça, c'est la nouvelle directive à suivre. Si vous avez déjà une application Windows 8 et que vous souhaitez la migrer en Windows 8.1, c'est très simple à faire. Bien que, je le répète, il faille intégrer la Searchbox dans votre UI, l'API reste la même. Vous n'avez pas besoin de changer votre code derrière. Donc voilà pour la web page. Maintenant, je vous propose de vous rendre dans une destination particulière. Alors, c'est pas un cours de géographie, d'accord ? Les photos et les noms et les continents ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité. donc voilà, ça a été généré automatiquement, d'accord ? Donc, je vais me rendre, par exemple, en Amérique du Nord, où on a l'Afghanistan, bien sûr. Bon, encore une fois, je répète, c'est pas un cours de géographie. Donc,
peut-être rester sur.
Ouais, je vais changer les slides. Tac.
Alors, voilà. La liste des destinations.
La liste des destinations. Vas-y, je t'en prie, présente.
Alors, la liste des destinations. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc en nouveauté dessus? Donc, le Adaptive Layout, donc, qui est encore une nouveauté 8.1, qui va donc être basé sur la gestion, donc le redimensionnement de notre UI. L'App Bar Command Bar, donc avec cette apparition de Command Bar et les différents contrôles de la barre. La famille Flyout, donc, qui a été intégrée donc, sur cette version 8.1, donc, qui met en avant les Flyout, les menus Flyout et les Sitting Flyout. Et côté mise à jour, on aura donc l'amélioration des performances de la Grid View. Maxime nous parlera un petit peu plus en détail, et le format XBF. Alors on va commencer par l'Adaptive Layout. Donc alors aujourd'hui, on a différentes résolutions, différents formats d'écran, donc notamment avec ces nouvelles tablettes donc 7 pouces, 8 pouces, etc. Donc ça va être c'est un travail assez important parce qu'il va falloir en fait adapter notre UI par rapport au device tout simplement. Donc pour cela, en fait, Microsoft a revu un petit peu le système donc d'état, le système de view state qui était présent sur Windows 8. Qu'est-ce que cela offre? Donc tout simplement la possibilité dans un premier temps d'afficher plus de deux applications sur un même écran, donc en fonction de la résolution, et la possibilité en fait de moduler, donc là la résolution du rétroprojecteur nous empêche en fait de... on n'a pas la possibilité de le voir, mais en fait ça va être la possibilité de... comment dire, de moduler la taille de vos fenêtres à votre envie. Donc, exit le mode snap auparavant, celui-ci est déprécié. On parle maintenant de taille minimum, que vous allez pouvoir définir en fait dans le app manifeste de votre application, à 500 ou 320 pixels, anciennement, comme le snap. Donc, je le disais tout à l'heure, les view states sont dépréciés, et donc on avait donc anciennement les view states, landscape, etc., on ne les utilise plus, et ça va être maintenant à la charge du développeur de définir lui-même les états de sa vue. Pour cela, on se base pour découler en fait un algorithme pour pouvoir définir en fait un view state par rapport en fait à la taille de l'écran. On va utiliser la propriété Windows Current Bound qui va donc nous donner en fait tout simplement la taille de l'écran.
Ouais, c'est là.
Attends, je parle un petit peu de juste ça avant.
Vas-y, pardon.
Alors sur cette vue, on voit assez bien en fait Windows 8 ou Windows 8.1 avec donc comme on le voyait anciennement les différents états, donc full screen, landscape, portrait, etc. Et donc maintenant en fait c'est les view states que j'ai définis moi-même que je vais vous présenter un petit peu côté code.
Désolé pour le zèle.
Je vais basculer sur Blend. Alors j'aime bien Blend moi déjà. Donc au niveau pour créer des view state et des animations, je trouve ça assez assez pratique. Donc je vais me rendre sur ma page où j'ai déjà défini en fait au préalable mes différentes vues. Donc l'avantage ici, c'est que j'ai pu créer en fait des vues complètement custom. Ici j'en ai une, donc mon défaut de layout, donc la vue landscape. Et donc après j'ai défini des vues différentes en fonction de si je suis inférieur à 1150 pixels de largeur et si je suis inférieur à 800 pixels de largeur. Donc voilà, donc comment j'ai implémenté en fait ce système de mise à jour de la vue par rapport d'appel de view state par rapport à l'ancienne version. Donc pour ça je vais rebasculer quand même sur Visual. Et donc tout simplement je me suis abonné à l'événement Windows Change, Size Change pardon, de ma Windows. Et en fonction de ça, donc simplement par rapport à la valeur de Windows Current Bounds, j'ai appliqué un état de vue différent, un view state. Donc relativement simple. Ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est tout simplement de créer un template de page sur lequel vous pourrez définir au préalable vos view state personnalisées, ce qui va vous permettre d'éviter de retaper ça à chaque fois sur chacune de vos pages. Donc assez intéressant. Et qui va vous permettre en fait, de vraiment apporter une expérience utilisateur intéressante, étant donné que ça va vraiment être un contenu qui sera adapté à la taille de l'écran. Alors, on peut repasser sur le... Mm-hmm. Je sais où, comme ça. Ok. Alors, l'autre grande nouveauté de Windows 8.1 sur cette page, c'est l'apparition des contrôles à barre et de la commande barre. Alors, anciennement, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs Windows 8 dans la salle et Windows 8.1, donc anciennement, on avait donc un style qu'il fallait appliquer sur des boutons pour obtenir en fait un look tout simplement d'app bar button. C'est une chose révolue étant donné que Microsoft, sur cette version Windows 8.1, a ajouté en fait des contrôles pour l'app bar. Donc le app bar button, le app bar toggle button et le app bar separator. On peut peut-être faire un switch rapidement sur l'application pour voir un petit peu
ça.
Donc alors l'avantage de ces composants, quel est-il ? Tout d'abord, en fait, ils ont deux propriétés assez intéressantes. Autrefois, on définissait en fait le label et l'icône directement dans le contexte du bouton, dans le style du bouton. Maintenant, en fait, on va avoir directement des propriétés, icônes et labels qu'on va pouvoir utiliser, qui sont assez intéressantes. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc là, effectivement, nos différents boutons, donc là, des boutons assez simples. Donc voilà, les toggle buttons et le séparateur. Si je bascule sur Blend, on va voir un petit peu les possibilités qu'offrent ces boutons. Donc alors, dans les propriétés de mon bouton, je vois tout d'abord que j'ai un icône et que celui-ci en fait peut être défini via différents types. Donc tout d'abord via un glyphe, donc comme vous pouvez le voir ici, donc c'est un glyphe d'une fonte, via l'énumération Segoe Symbol UI. Donc l'avantage en plus sur Blend comme sur Visual, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre des features qui sont assez similaires. Donc vous voyez que j'ai directement la possibilité de choisir mon icône, c'est quand même super pratique. La possibilité donc d'inclure une image. Et enfin, un pass XAML directement, donc assez intéressant aussi. Donc, on va repasser sur celui-ci, c'est là ?
Non, c'est là.
Le 1, ok. On va repasser sur cet écran-là pour voir un petit peu la différence avec l'ancienne version. Donc, anciennement, on avait, donc, comme je le disais, un style sur lequel on définissait en fait, via des setters directement la valeur de notre icône, la valeur du glyphe et le label. C'était assez verbeux et donc c'est pour cela aussi, enfin, je pense dans cette version, c'est vrai que Microsoft a quand même répondu à un certain nombre de demandes des développeurs. Donc voilà, et donc la version Windows 8.1 qui est relativement simple étant donné qu'on a simplement en fait une chaîne de caractères qui définit le caractère de notre énumération et le label qui est défini dans une propriété assez simplement aussi. Alors, la seconde partie des nouveautés, c'est la commande barre. Alors, qu'est-ce qu'une commande barre ? Donc, sur les applications Windows 8, on avait deux barres. On avait une app barre en haut qui permettait d'exposer donc, la navigation ou tout autre type de contenu, comme par exemple sur Internet Explorer avec les différentes pages web. Et on avait en bas donc, l'ensemble de nos commandes qui permettent donc, bien évidemment, d'interagir sur le contenu. Sur cette version 8.1, Microsoft en fait, nous a proposé ce contrôle qui est la commande barre, assez intéressant étant donné qu'il n'accepte que des contrôles app bar button, app bar toggle button et app bar separator. Donc on est limité en fait à ce niveau-là. Et il y a en fait des propriétés assez intéressantes. Tout d'abord la composition, elle est composée en fait de deux panels, un primary et un secondary. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque mon UI en fait va se rétrécir, elle va mettre en avant le primary pour laisser les commandes secondaires derrière. Ce qui va laisser en fait à l'utilisateur uniquement les commandes intéressantes, les commandes primaires, les commandes vraiment intéressantes. Donc ce côté responsive, comme je le disais, elle va savoir s'adapter, donc elle va savoir adapter les commandes en fonction de la taille de l'écran. Mais aussi en fait, petit point sur lequel je vais revenir, sur les boutons, en fait, on a une propriété qui s'appelle. Oh, c'est bon, en fait. On a une propriété qui s'appelle isCompact qui permet en fait de cacher tout simplement le label. Et cette commande barre va appeler, lorsque lui en fait est trop petite, va appeler donc cette propriété sur les boutons de manière à cacher l'ensemble des labels et donc de pouvoir afficher un maximum de boutons d'abar button. Voilà, dernier élément avant de laisser la main à Maxime, les settings flyout. Donc je le disais tout à l'heure, une famille de flyout que Microsoft a ajouté donc, sur cette nouvelle version, assez intéressante. À quelle problématique répond-elle ? Tout simplement au besoin d'afficher une information, un contenu informationnel, de manière temporaire pour l'utilisateur. Donc on va faire un petit switch sur, sur l'application pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, à quoi ressemble un menu flyout ? Donc simplement ici, on en a utilisé un pour pouvoir interagir sur les différents continents, sur les différentes destinations. En fait, sélectionner un continent pour avoir les destinations qui sont dans ce continent. Donc voilà, assez simple d'utilisation. Donc tout simplement, ça se compose un petit peu comme un stack panel et dedans, vous allez pouvoir ajouter vos différents éléments. Donc menu flyout item, toggle flyout menu item, pardon, et le séparateur qui est bien évidemment assez utile. Très simple à mettre en place et très simple à lier donc à un bouton ou un UI element. Donc on va repasser sur décidément. Donc oui, assez intéressant, étant donné que sur les boutons, on va directement avoir une propriété qui s'appelle flyout, et sur laquelle on va pouvoir directement donc définir le nom de notre flyout, préalablement défini dans notre fichier de ressources, et lorsqu'on va appuyer sur le bouton, ça va directement appeler ce flyout. Donc c'est assez simple à mettre en place. On a aussi une autre manière de procéder pour l'attacher à n'importe quel UI element. Admettons par exemple que je voudrais attacher donc un flyout lorsque j'ai l'événement tap d'un rectangle. Eh bien, c'est possible, simplement avec la fonction showAttachedFlyout. Donc on va tout simplement utiliser la fonction showAttachedFlyout avec le composant UElement. Et de là, en fait, on va pouvoir appeler soit hide, soit show pour le flyout. Donc assez simple à mettre en place, très utile. Donc c'est vrai que pour afficher un contenu informationnel, c'est quand même plus pratique que du custom. Voilà, je vais maintenant laisser la main à Maxime qui va vous parler des performances.
Ok, donc les performances. Alors, il faut savoir qu'avec la mise à jour Windows 8.1, les performances, si vous voulez, c'était le dénominateur commun de quasiment tout ce qui a été mis en œuvre avec la mise à jour. Disons que Microsoft a gardé vraiment en tête les préoccupations qu'on aurait pu avoir avec Windows 8 sur les performances. Donc, ça a été amélioré, le besoin a été exprimé, Microsoft a su répondre. D'une part, avec le nouveau format XBF. Donc, XBF correspond au format compilé de XAML. C'est-à-dire qu'auparavant, qu'est-ce qu'on avait lorsque vous déployez votre application sur le store et vos utilisateurs la récupéraient, ils récupéraient d'emblée l'XAML que vous avez publié. Maintenant, l'XAML est compilé au format XBF, automatiquement, gratuitement si je puis me permettre, vous avez juste à retargeter votre application Windows 8 ou simplement en refaire une si vous n'en avez pas encore, et vous avez d'ores et déjà l'avantage d'XBF. Donc, les avantages concrets du XBF, c'est, disons que ce sera le chargement, le lazy loading. C'est-à-dire chargement progressif, chargement paresseux, à vous de voir pour la traduction. Disons, on va ne charger les ressources uniquement lorsque l'utilisateur en a besoin de vos ressources XAML, bien sûr. Donc XBF, voilà, vous en bénéficiez automatiquement. Plus de XAML directement chez les utilisateurs. Mais c'est pas tout, je vais également vous parler du Visual Tree, du panning et les placeholders, plus en détail. Donc le Visual Tree correspond en réalité à l'item présenteur, c'est-à-dire le graphe d'objets que le moteur XAML va utiliser pour aller dessiner vos éléments dans vos listes. Donc auparavant, comme on peut le voir à gauche dans Windows 8, le graphe d'objets était relativement complexe, c'est-à-dire que le moteur XAML devait parcourir tout ce graphe pour pouvoir aller dessiner vos éléments. Dorénavant, il a été quand même vraiment simplifié, ce qui permet donc une grande amélioration qui consiste à ne charger les styles que lorsque on en a besoin. Donc ça paraît un peu confus comme ça, mais en réalité, si vous avez une grid view et que vous ne pouvez pas sélectionner vos éléments dedans, eh ben, ça ne sert plus à rien en réalité de charger les styles correspondant à vos éléments sélectionnés. Donc ces styles-là ne seront pas chargés, ce qui permet donc d'une part d'améliorer les performances, améliorer le temps de start-up, enfin, c'est un gain global sur l'application. Troisième point sur les performances, c'est le panning, la virtualisation de l'UI. Donc qu'est-ce qu'on avait auparavant ? La virtualisation de groupe, dorénavant on avait virtualisation d'items. Donc ici vous voyez sur ce petit schéma, vous pouvez visualiser un peu le orange comme étant le viewport de l'utilisateur, donc qu'est-ce qu'il voit ? Et sur les côtés, donc qu'est-ce qu'il y aurait un peu en imaginant qu'est-ce qu'il y aurait sur les côtés. Qu'est-ce qu'on avait auparavant ? Ici, vous voyez, on a une liste qui est divise en groupes, 1000 éléments dans le groupe 2, 1000 éléments dans le groupe 3. Auparavant, quand on était à cheval sur les deux groupes, comme la virtualisation était une virtualisation de groupe, on chargeait les 2000 éléments, alors qu'on n'avait pas du tout les 2000 éléments dans la liste. Dorénavant, vu que c'est une virtualisation d'items, on ne charge que les éléments qui sont dans le viewport, et bien sûr un peu sur les côtés au cas où l'utilisateur commence à se croire, on a déjà fait le travail un peu à l'avance. Ça, identique, idem, vous bénéficiez de ce gain de performance automatiquement dès que vous migrez votre application dans Windows 8.1. Voilà. Ensuite, c'est les placeholders. Donc placeholders, dans ce cas concret, correspondraient aux éléments qu'on va vouloir afficher lorsque les éléments n'ont pas eu le temps d'être chargés. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tout le monde sait à peu près qu'il n'y a qu'un seul thread d'UI dans Windows 8. C'est-à-dire que le moteur XAML qui va tourner dessus, s'il va prendre trop de temps pour pouvoir dessiner vos éléments, il va bloquer un peu lui, donc la responsiveness ne sera pas top. Donc qu'est-ce qui se passe dans Windows 8 si vous allez très vite en scrollant ? Vous vous rendrez compte qu'au bout d'un moment, le moteur XAML il dit « laisse tomber, c'est pas grave, on ne va pas dessiner les éléments. L'utilisateur il va pas rester suffisamment longtemps pour qu'on puisse en profiter. » Donc il ne les dessine pas. Avec Windows 8.1, il y a cette nouvelle propriété qui est à trop par défaut, qui s'appelle Show Scrolling Placeholders, donc vous allez voir en vidéo, qui va afficher automatiquement, lorsque le moteur n'a suffisamment pas le temps de dessiner vos éléments, des placeholders automatiquement. Donc ici, vous voyez, l'option est activée. Alors du coup, là, tout de suite, pour l'utilisateur, c'est un feedback. Il s'en rend compte directement qu'il y a des éléments, il n'est pas perdu un peu dans le blanc, donc ça c'est vraiment top. Identique, vous en bénéficiez automatiquement dans 8.1. Mais alors, cette option, elle est à trop par défaut, mais on peut la désactiver. Donc dans quel cas, on va vouloir la désactiver ? C'est lorsqu'on va vouloir prendre entièrement la main sur le chargement justement de vos éléments. Parce que là, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Vos éléments, ils ont deux états. Le premier état, c'est le placeholder, et le second état, c'est votre élément complet. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si, justement, votre élément, il est un peu plus complexe que ça, et vous voulez vraiment prendre la main sur le chargement incrémental ? Et bien, justement, c'est le chargement incrémental qui est apparu avec Windows 8.1. Donc ça, ce serait le data template qu'on voudrait optimiser. Donc, vous voyez ici, il y a le rectangle, donc un placeholder personnel, c'est pas le placeholder de natif, hein. Les éléments prioritaires et l'image. Alors rapidement, je vais vous montrer, pour vous visualiser bien de quoi je veux parler, dans l'application. Ici, vous voyez, donc ce serait justement les destinations qu'on peut voir dans la liste. Ici, typiquement, on a à peu près un millier d'éléments dans la liste. Ça représente, bien sûr, vous avez peut-être été confronté à de plus grands nombres d'éléments, mais c'est quand même déjà pas mal. Et ici, justement, on voudrait pouvoir améliorer ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ça ? Donc, je vous propose de le faire immédiatement. Alors première chose à faire, ça allait déjà de retrouver la grid view, voilà, qui est ici. Donc, alors très rapidement, je vais vous montrer un peu le style en lui-même. Petite amélioration de Visual Studio 2013 qui est vraiment cool, c'est de pouvoir faire F12 sur les styles. Ça vous amène directement sur les styles, à la manière que vous utilisez ça pour vous rendre aux définitions de classe, aux propriétés. Ça, c'est une petite amélioration bien sympa. Donc F12, voilà, ça me rend directement dans le style. Ici, donc, vous voyez hein, l'image, le placeholder que j'ai rajouté à la main. C'est pas celui de la grid view en natif. L'image, les éléments prioritaires, voilà. Donc, en réalité, pourquoi est-ce qu'on voudrait déjà les afficher de manière séquentielle ? Simplement parce que l'image affichée, elle est quand même plus lourde d'afficher que du texte. Donc, on voudrait d'abord afficher le texte, ensuite l'image, si on a le temps, si l'utilisateur a le temps de rester sur l'élément. Donc, première chose à faire, ça va être de désactiver cette option, donc qui s'appelle Show Scrolling Placeholder. Donc, je la passe à false, d'accord ? Parce que c'est pour dire, on prend entièrement la main sur le processus. Deuxième chose à faire, c'est s'abonner à l'événement Container Content Changing. Qu'est-ce qu'il va faire cet événement ? Il va être levé lorsque le moteur XAML considère que l'utilisateur est resté suffisamment longtemps sur votre élément pour appeler l'état suivant. Donc les états, je vais vous montrer comment on les définit. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le gérer, c'est fait automatiquement par le moteur XAML. Il estime que l'utilisateur est resté suffisamment longtemps. Donc je vais aller dans ce handler. Voilà. Alors, donc, vous voyez ici, ça c'est un événement. Donc là, je vous montre juste l'événement qui est ici, donc args. Okay. Args, il faut dire qu'on l'a handlé, okay, pour dire au moteur XAML, stop, fais plus rien, c'est moi qui prends la main maintenant, c'est fini. Donc voilà, on fait args.add.true. Deuxième chose à faire, c'est récupérer tous les éléments de votre style, le style que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà, donc ici, c'est les éléments du style que je vous ai montré, hein, mais je ne vais pas le retaper, donc j'ai fait un petit snippet. Ici, donc on récupère la priority grid, le text promo, le placeholder, etc. Donc, première chose à faire, ce sera afficher le placeholder. On va gérer avec l'opacité. En changeant l'opacité, l'élément il sera chargé ou pas. Hein. C'est pas, même si on le met à 0, il ne sera pas chargé. Mais ça maintiendra un peu l'ordre de vos éléments dans votre data template. Donc ensuite, je vais aller masquer l'image, bien sûr. Ça, c'est impératif, parce qu'on voudrait l'afficher en dernier, en réalité. Ensuite, on va afficher la priority grid. On va pas l'afficher, pardon. On va la masquer aussi. Parce que dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir simplement rien afficher, afficher uniquement mon placeholder. Voilà. Ensuite, ça c'est votre premier état. Là, si je lance l'application, on va pouvoir voir ça immédiatement. On va pas avoir grand-chose, en réalité, parce que le chargement va se bloquer sur le premier état. Je vous montre ça. Hop. Je vais aller ici. Ouais, bon, voilà. Ça, c'est mon placeholder. Pour rappel, c'est pas le placeholder de la grid view, c'est mon placeholder. Hein. Et nous, vraiment, on voudrait pouvoir justement contrôler un peu ce chargement incrémental. Donc, comment aller pouvoir définir notre second état? Et bien, tout simplement, dans ce arc, ce qui est un peu magique, on a une, comment dire, un callback qui s'appelle register update callback, dans lequel on va pouvoir aller définir justement l'état second de votre chargement incrémental. Donc, je vais l'appeler showText, on va dire. On la génère automatiquement. Voilà. Vous voyez, il est ici. Donc ça, ce showText va être appelé une fois que l'utilisateur sera resté suffisamment longtemps sur le placeholder. Donc ici, je ne vais pas tout retaper encore une fois, hein, mais je vais vous montrer rapidement la chose. Donc ici, vous voyez, ça, c'est ça, c'est le container content changing. On appelle le showText. On récupère encore une fois les éléments du style. On change l'opacité du texte et de la promotion. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit task.delay.wait simplement parce que c'est pour simuler après pour vous montrer une machine lente. Les machines fournies par Etelos sont malheureusement trop puissantes pour pouvoir faire la démonstration. Mais bon, donc voilà, c'est un task.delay.wait, c'est moche, je sais, mais c'est pour la démonstration. Bien sûr, il ne faut pas faire ça en production. et bien sûr, après, on enregistre le show destination image. C'est là où justement on va aller afficher l'image et bien sûr cacher le placeholder. Parce qu'il faut bien comprendre que le dernier état, donc show destination image qui est ici, c'est l'état final de votre style. Ok ? Donc, avec ce petit task.delay, vous allez voir de quoi je veux parler. Voilà. Donc ici, il n'y a peut-être pas le texte qui s'est affiché. Peut-être une petite... D'accord, ok, j'ai compris pourquoi. En fait, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai changé la priority grid, alors que j'aurais dû changer un par un les textes et promotions. Désolé. Mais bon, c'est corrigé en moins de 2. Promo. Voilà. Donc ça, typiquement, ça va vous permettre de gérer le chargement incrémental de vos styles qui sont relativement complexes. Là, c'est un style simple pour le besoin de la présentation. Vous voyez ici, si je scroll suffisamment longtemps, on va pouvoir charger incrémentalement les éléments. Si je reviens en arrière, pareil, on ne charge que ce qu'on affiche à l'écran. Donc voilà, vous avez la main là-dessus. Alors bien sûr, évitez de mettre 50 états. Le but, c'est de ne pas en mettre beaucoup non plus. Mais voilà, vous avez la main pour le faire, pour pouvoir le gérer. Alors, je vais juste aller retirer... ce que je viens de rajouter, donc à savoir ce container content changing, sinon ça risque d'être un peu pénible. Voilà. Tac. Et je vais revenir donc sur les slides, parce que c'était tout pour les performances. Voilà. Et donc on va vous parler maintenant des nouveautés qu'on a intégrées dans la page destination, donc la fiche produit en réalité, si on peut dire ça comme ça. Dans les nouveautés, on va vous parler des settings flyout. Donc Romain vous a présenté tout à l'heure les menus flyout, maintenant on va vous parler des settings flyout. Les date picker et time picker, alors enfin ça on les a, ça c'est vraiment super, parce que à chaque fois on s'embêtait à les faire en custom ou à les prendre des trucs tiers, maintenant c'est bon, on les a, ça c'est vraiment super que Microsoft ait réussi à répondre à ce besoin. Et également la mise à jour de la WebView qui a été entièrement refaite. Donc ça, on va vous en montrer plus en détail. Et je vais laisser la parole à Romain sur la suite. Sur la suite.
Alors, les Sitting Flyout. Donc les Sitting Flyout, ils répondent à une problématique qui a été rencontrée par un certain nombre de développeurs, qui était tout simplement donc affichée un petit peu à la manière du Sitting Charm. Donc quand on va directement dans les Sitting de notre application et qu'on déploie en fait ce panneau, afficher un peu un panneau de la même façon et puis pouvoir exposer le contenu qu'on souhaite dedans. Donc ça peut être par exemple tout simplement un panier ou une sélection des horaires comme dans notre cas. Donc on va basculer sur l'appli. Tac. Qui faut relancer.
Oui, j'ai dû modifier le truc, c'est pour ça.
Donc on va se rendre sur cette page, donc cette fiche produit. Donc pour cela, on va se rendre en Amérique. Du Nord, et puis tiens, en Afghanistan.
Avec son beau Mont Fuji.
Et donc ce Sitting Flyout, donc tout d'abord à quoi ça ressemble. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité en fait de déployer tout simplement un panneau qu'on faisait autrefois de manière custom, qui est maintenant intégré directement dans Windows 8.1 en native. Alors, différents points sur ce Sitting Flyout. Le premier, il se déclare comme une page. Donc à la différence de certains contrôles ou d'un user control, là on va pouvoir en fait directement le déclarer dans une page avec il aura ses propres attributs, etc. sur lesquels je vais revenir un petit peu après. Donc bien évidemment une hauteur fixe, donc pour respecter un petit peu donc cette guideline, le contrôle est directement fixé sur la hauteur complète de l'écran. Au niveau de la largeur, elle est paramétrable, donc je vais pouvoir avoir un contrôle si je veux qui vient jusqu'à la moitié de mon écran tout simplement. La manière dont il est composé, donc tout d'abord un header donc sur lequel vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre de choses, sur lequel je reviendrai encore tout à l'heure, donc notamment le titre, l'icône, etc. Il y a un bouton back aussi qu'on peut cacher. Il est composé en fait de différentes sections qui sont elles-mêmes incluses dans un stack panel. Pourquoi un stack panel? Tout simplement pour pouvoir en fait ferrer l'ensemble des éléments. Je vous conseille de le garder. Donc bien évidemment, vous pourrez le modifier, trixer un petit peu en changeant le conteneur par une grille et en adaptant en fait la taille de cette grille par rapport à la taille de votre écran. C'est possible. Donc si vous voulez afficher en fait des éléments en bas, maintenant c'est quand même plus simple en fait d'avoir ce stack panel qui permet de directement tout ferrer vers le haut. Et donc après, donc chaque élément qui sera lui aussi inclus dans un stack panel. Enfin, je vais vous montrer ça plus en détail. Alors pour ça, on va basculer sur Blend. Ça, on va laisser tomber. Et alors, tout simplement, tout à l'heure, je vous disais, on déclare en fait ce sitting flyout de la même manière qu'une page. Donc, tout simplement, je vais aller dans mon projet et je pourrais donc ajouter un nouvel élément. Et dans ces nouveaux éléments, j'ai donc mon sitting flyout. Et donc, nous, on en a déjà déclaré un. Du coup, je vais l'ouvrir. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout d'abord, les propriétés qu'on pourrait trouver sur ce sitting flyout. Hop. Et hop, tac. Alors, donc, bien évidemment, un titre, un icône. Par défaut, l'icône sera celui de votre application. Donc, vous pouvez bien évidemment le surcharger. Et donc, après, au niveau de la composition donc, de cet élément, on voit donc le stack panel principal et donc les différents stack panels que j'ai ajoutés ici, qui sont l'équivalent de mes sections. Donc, voilà, assez simple, en fait, d'appeler ce contrôle. Donc, on peut regarder directement dans le code de la page destination. Hop. Oups, non, c'est la page destination. Tac. Ah non, je suis dans l'examen. Donc pour moi. Tac, tac. Voilà. Et donc assez simple, il suffit de le déclarer simplement. Donc je pourrais garder une instance dans un view model par exemple, et donc déclarer en fait ce sitting flyout, et je vais utiliser tout simplement les propriétés, donc show, hide pour l'afficher ou le masquer. Donc très simple d'utilisation. Donc maintenant vous avez pu voir, si je rebascule sur l'application, que dans ce sitting flyout, j'ai les composants en fait qui sont assez intéressants, qui sont le date picker et le time picker. Donc composants effectivement qui étaient assez attendus, qui ont été assez demandés par les développeurs, étant donné, comme le disait Maxime avant, on devait passer donc par des éléments custom. Donc voilà, pour mettre en avant les différents types de calendriers, etc., c'était pas vraiment pratique. Donc sur cette version 8.1, Microsoft en fait a intégré ces contrôles. Donc on peut regarder un petit peu les différentes propriétés qui sont disponibles dessus. Assez intéressant, donc sur très intéressant même. Sur donc tout d'abord le time picker, on va avoir la possibilité de modifier le type de l'horloge. Donc comme vous voyez en fait ici avec les deux formats, le premier en 24 heures, le deuxième en 12 heures, avec cette possibilité donc de pour l'utilisateur de CT à MPM. Et donc pour le calendrier, de la même manière, on va avoir en fait la possibilité de définir le type de calendrier. Donc on a un grand nombre de calendriers disponibles. Donc Microsoft en fait a eu la bonne idée d'inclure donc le calendrier grégorien, japonais, etc. Très pratique, parce que pour faire ça en custom. Et donc la possibilité aussi, si on souhaite, de cacher ou non le jour du mois. Donc comme vous pouvez le voir en fait sur la dernière ligne, j'ai ici en fait le mois, donc le 2 février, et donc l'année, sans avoir la possibilité de c'était mon jour. Voilà, donc contrôles qui sont très intéressants, encore une fois, qui répondent à la problématique qui était assez simple, qui était de laisser à l'utilisateur en fait la possibilité de renseigner une heure ou une date. Voilà, on va repasser sur les slides. Les date picker, et je vais te laisser la main sur la WebView.
Donc la WebView évolue. WebView is evolving. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez vu sur cette page, je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Une petite vidéo, donc c'est pas un Media Elements, hein. c'est une WebView qui contient un lien vers Vimeo en réalité. Je vous montrerai ça tout de suite. Donc voilà, donc a priori rien de nouveau comme ça, mais alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est ces petits boutons qui sont ici. Ces petits boutons, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des éléments qui sont en XAML et qui sont superposés par rapport à votre WebView. Si vous avez déjà utilisé la WebView dans Windows 8, vous savez sans doute qu'on ne pouvait pas superposer les éléments parce que simplement, la WebView, c'était un composant COM qui était superposé dans une frame complètement on top du XAML. Donc, dorénavant, c'est possible. Ici, par exemple, je vais cliquer sur ça, qui provoque une erreur. Magnifique. bon, d'accord. Alors, je vais relancer l'application. Donc, du coup, c'était pour montrer en plein écran qu'on pouvait superposer la barre par-dessus. Donc, typiquement, ça, c'était une contrainte qui existait dans Windows 8. Le besoin a été exprimé par les développeurs. Microsoft a su y répondre. Et, complètement intégré dans l'arbre XAML, la WebView, maintenant, va pouvoir se comporter avec des animations, comme ceci, des animations, enfin, comme vous avez l'habitude de pouvoir gérer l'opacité, les transformations, le Z-order, vous pouvez vraiment entièrement gérer ça à la main. Donc ça, c'est la refonte entière de la WebView. Alors, c'est pas tout. Je vais revenir sur les slides, ici. C'est pas tout, parce que la WebView, elle est venue également avec la possibilité de charger du contenu local. Vous avez peut-être déjà essayé de charger un contenu qui a été packagé dans votre application, c'était possible avant. Maintenant, vous avez en plus la possibilité de charger du contenu qui n'était pas packagé, mais qui a été ajouté dynamiquement. Par exemple, des jeux HTML5. Si dans votre application vous avez des jeux HTML5, vous pouvez télécharger et les embarquer dans votre WebView. C'est également la possibilité d'appeler la nouvelle méthode qui s'appelle Navigate to Local Stream, qui va vous permettre de gérer en réalité comment est-ce que les CSS et les images et les textes sont gérés dans votre WebView. Vous avez entièrement la main là-dessus. Vous pouvez remplacer les éléments à votre guise. Et la possibilité d'effectuer des screenshots avec la méthode en troisième point. C'est également, la WebView, une amélioration de la sécurité. C'est-à-dire, vous avez la main sur, gérer les possibilités que vous ne voulez pas rencontrer sur le net, typiquement avec l'événement Long Running Script Detected. Donc abonnez-vous à cet événement pour justement pouvoir être notifié d'une page dont le script JavaScript met trop de temps à être exécuté. Typiquement, c'est ce que la plupart des navigateurs font, c'est ce que maintenant fait la WebView également. La possibilité de vous abonner à l'événement qui va être levé lorsque le smart screen de Windows va vous signaler un problème de sécurité avec le Unsafe Content Warning Display. Donc ça c'est vraiment super, parce que le smart screen de Windows, c'est la sécurité qui a été testée et éprouvée. Vous basez entièrement sur cette sécurité. Vous n'avez pas besoin de gérer vous-même la sécurité de votre WebView. C'est le smart screen qui va vous signaler qu'il y a un problème. Unviewable Content Identified, c'est un événement qui va être levé lorsque la WebView n'est pas capable d'afficher le contenu que vous lui demandez d'afficher. Par exemple, moi je pense à l'utilisateur, il est sur sa page d'email, il va aller sur une pièce jointe. La pièce jointe, c'est un PDF. Le PDF, la WebView, elle ne sait pas le lire. Donc typiquement, là, vous allez avoir l'événement qui va être levé. Et c'est à vous de lancer après un background downloader pour aller télécharger la pièce jointe. Donc ça, vous avez entièrement la main. C'est également un gain de sécurité, donc une réassurance pour vos utilisateurs sur le script notify. Donc pour rappel, le script notify, c'est la possibilité de faire communiquer votre WebView avec votre application. Donc maintenant, vous avez la réassurance en tant qu'utilisateur que ce script notify ne peut être utilisé que sur le contenu local ou HTTPS. Parce que bien sûr, si c'est du HTTP, n'importe quel attaquant peut aller manipuler le flux que vous recevez. Et ça a été vraiment amélioré avec cette contrainte en réalité. C'est une véritable contrainte. Donc voilà pour la WebView. Profitez-en, moi je trouve que c'est vraiment super composant et que la mise à jour a été vraiment top là-dessus. Et maintenant, on va vous parler du blog. Alors le blog, c'est un peu l'aspect social de l'application qu'on a fait pour la session, c'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir justement réaliser des histoires sur leur destination pour vous donner envie d'y aller. Donc dans le blog, on va vous parler des mises à jour sur les textbox et les rich textbox, ainsi que la refonte du système de thèmes. Donc je vais laisser la parole à Romain sur la suite.
Alors on va commencer donc par les textbox et rich textbox. Donc qui sont les composants tout simplement pour afficher du texte. Et donc un certain nombre de modifications qui ont été apportées dessus. Donc tout d'abord, le support des symboles et des hyperlinks. Donc ça paraît assez simple comme ça, mais c'est tout simplement en fait la possibilité d'intégrer directement le texte un hyperlink et des symboles de Segoe et Uglyph. Donc pour ça, je vais passer sur l'application pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tac. Ah bah, elle est déjà lancée. Donc assez intéressant, ça va nous permettre de mettre plein de couleurs, plein d'images dans nos blogs. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur cet encart de texte, on peut voir qu'il y a différents icônes de Segoe symboles qui ont été intégrés. Et donc là, en orange, donc un petit peu en bas, mon blog, qui est donc en fait tout simplement un lien, un hyperlink. Alors au niveau code, à quoi ça ressemble? Donc je vais pour cela me rendre sur ma page story. Voilà. On peut le voir ici, donc le début de ma balise textblock juste ici, la fin ici. Donc là, j'ai défini mon texte, donc un petit peu de manière désordonnée. Et donc j'intègre dedans donc, des mots arabes, directement des symboles, mais aussi mon hyperlink, sur lequel je vais pouvoir bien évidemment citer toutes les propriétés que je souhaite, donc bien évidemment, donc le foreground, etc. L'URL, tous les points intéressants. Donc voilà, donc dans un premier temps donc ce support hyperlink et symbole, mais aussi donc d'autres nouveautés, donc notamment la couleur de la sélection. Donc autrefois en fait, quand on sélectionnait du texte simplement pour faire un copier-coller par exemple, on ne pouvait pas définir la couleur. C'est maintenant une chose révolue sur cette version Windows 8.1. On va maintenant pouvoir définir la couleur. Différentes possibilités de wrapping, notamment avec le wrap whole word, qui est assez intéressant, étant donné que plutôt que de couper les mots pour revenir à la ligne, là on va pouvoir directement avoir des mots complets. Dernière propriété, avant de passer à la suite, qui est assez intéressante, c'est maxline. Autrefois, lorsqu'on souhaitait en fait avoir un text block ou un rich text block, et qu'on voulait limiter en fait le contenu de ce contrôle, et ben on allait tout simplement limiter la taille et donc mettre après trois petits points par exemple. C'est une chose révolue maintenant sur cette version, car on va avoir maxline qui va nous permettre donc de fixer un nombre de lignes maximum sans avoir à définir, sans avoir à redimensionner le contrôle pour en limiter le texte qu'il affiche. Voilà. Pour la suite, alors des nouveautés sur le rich text block et le text block. Donc tout d'abord l'alignement optique de la marge. Donc, alors certains en ont sûrement fait l'expérience si vous essayez de faire une UI en fait un petit peu parfaite avec des marges donc super nettes. Car autrefois en fait on avait un alignement par rapport au contrôle et on avait parfois un petit espace entre le glyphe et le début du contrôle. Donc maintenant en fait la marge est directement collée avec le premier glyphe de la fonte, le premier glyphe qui sera présent dans votre contrôle. Davantage de possibilités d'alignement, donc vous pouvez le voir avec les petits encarts. Turquoise sur l'écran, donc la possibilité de ferrer directement son texte en haut, en bas, ou de le resserrer, etc. Le support du clip sur les mots arabes. Donc le clip, qu'est-ce que c'est? C'était tout simplement une méthode qui permettait en fait de découper les mots. Donc par exemple ABC, si je mettais un clip dessus, je pouvais avoir AB. Et ben maintenant on a ce support sur les mots arabes, donc qui sont composés un petit peu différemment. Donc vous pouvez le voir dans les encarts noirs, ce qui est aussi assez pratique pour les personnes qui veulent supporter les langues arabes sur leurs applications. Je vais laisser la main à Maxime. C'est tout pour donc les textbooks et les rich textbooks. Donc quelques petites mises à jour, mais qui sont très pratiques.
Voilà.
Tu veux me parler des thèmes.
Exactement. Donc les thèmes. Alors les thèmes, ils existaient également dans Windows 8. Pour ceux qui ne sont pas bien au courant, c'est la possibilité justement de personnaliser un peu l'expérience utilisateur dans votre application, c'est-à-dire changer entièrement, disons, le jeu de couleurs de votre application. Auparavant un redémarrage, et bien sûr ça a changé. Donc les thèmes dorénavant ils sont au niveau contrôle. Qu'est-ce que j'entends par là? Auparavant le thème il s'appliquait entièrement à votre application, à toute l'application. Dorénavant il peut s'appliquer uniquement à une section de hub, comme je vous le montrais tout de suite. C'est également la possibilité de le changer dynamiquement sans redémarrer l'application. Donc pour cela je vais simplement aller dans la page du blog que vous avez vu en screenshot là. Donc là c'est bon. Donc dans la page story ici, je vais aller rajouter une section hub. Donc comme Romain vous en parlait tout à l'heure, c'est vraiment très simple d'ajouter une section comme je vous le montrais là. Donc c'est celui-ci, voilà. Je vais insérer un petit snippet XML. Ça pareil, nouveauté de Visual Studio 2013. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai dans ce thème? Qu'est-ce que j'ai dans cette section, pardon? C'est un stack panel qui contient un bouton qui va vous permettre de changer le thème, vous allez voir, et un text block pour vous montrer justement le changement du thème. Donc le changement du thème, vous voyez ici, il y a un requested theme, donc c'est une propriété de tous les éléments de vos éléments XAML, que vous allez pouvoir changer en live, en dynamique, vous pouvez être bindé également, il n'y a pas de problème, et qui va se propager en réalité à tous les sous-éléments de votre conteneur, s'il s'agit d'un conteneur. Donc ici c'est une obsection, donc bien sûr... donc bien sûr, tac. Voilà. Donc ici, alors on n'a pas la handler ici, tac. Désolé, j'arrive tout de suite. Tap, hop. Voilà, on est ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben tout simplement, on va aller faire. Donc ici, je l'ai appelé thème exemple section. Donc je vais aller récupérer le nom de cette section. Hop. Et je vais aller changer. Donc ici, on est en thème. On n'est pas en thème dark, pardon. Ok, donc il semble qu'il y ait éventuellement un petit souci au niveau du snippet qui est au début. Hop, je vérifie juste si je l'ai ici. Thème. Ok, parfait. En fait, j'avais déjà prévu le snippet, désolé. Donc le snippet, qu'est-ce qu'il va faire ici? Thème exemple section. Tac, je vais sauvegarder ici pour que ça puisse compiler. Ouais, donc théoriquement on devrait la récupérer. Voilà. Donc ici qu'est-ce qu'on fait? On va changer le requested theme. Donc on a un bouton qui va changer le thème de toute la page, donc en changeant le ZIS, et un bouton qui va changer uniquement la section. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Comme je disais tout à l'heure, c'est changer dynamiquement le thème. Petite démonstration. Hop, je vais arriver là. Vous voyez ici la section que j'ai rajoutée à droite, qui n'existait pas auparavant. Si je change le thème de la section, nickel. Je peux également changer le thème de la page entièrement. Ça, dynamiquement, sans que vous ayez besoin justement de redémarrer l'application. Donc rien ne vous empêche d'aller customiser les thèmes Dark, Light et High Contrast. Vous avez entièrement la main là-dessus. Alors, il faut savoir que ce n'est pas des statiques ressources dans vos styles, c'est des thèmes ressources. D'accord ? Donc, tous les éléments par défaut de XAML vont être justement en thèmes ressources pour qu'ils s'adaptent automatiquement à vos thèmes. Donc, je vous invite justement à créer vos ressources dans des thèmes ressources. Donc, voilà pour les thèmes. Maintenant, ce que je vous propose d'aller voir, c'est la page Mon compte, qui se trouve ici, où justement, on va vous présenter des nouveautés sur les headers, les placeholders, donc sur les éléments de saisie, et une grosse mise à jour sur les bindings. Et pour ça, je vais laisser la parole à Romain.
Oui. Alors, donc, mise à jour sur les composants d'édition de texte, donc comme le Rich Text Box et le Text Box, tout simplement, et aussi sur les composants de sélection, comme par exemple une combo box ou des sliders. Alors, tout d'abord, ces mises à jour, ce sont le header. Donc ça paraît assez simple comme ça, mais c'est simplement la possibilité d'afficher donc un label informel au-dessus du contrôle que vous allez bien évidemment pouvoir entièrement personnaliser, encore une fois, donc en éditant le template, qui va vous permettre donc d'informer l'utilisateur de l'utilité en fait de ce contrôle, de cette box ou de ce slider. Donc très intéressant et très simple à mettre en place. Comme vous pouvez le voir en fait sur ce composant textbox ici, on a tout simplement défini un label dans la propriété header, qui est un véritable jeu d'enfant. L'apparition aussi des placeholders, donc ici uniquement pour les rich text box et les text box, qui va nous permettre en fait d'afficher donc un élément, une valeur, qui va disparaître lorsque l'utilisateur prend le focus sur le contrôle. Encore une fois, très simple à mettre en place, comme vous le voyez en fait sur cette text box ici. Donc le header, comme je disais, est entièrement personnalisable. Vous pouvez mettre n'importe quel élément valide XAML dedans, donc ça pourrait très bien être des figures, etc. Voilà pour ces mises à jour sur les composants donc de sélection et d'édition de texte. On va passer au binding.
Ok. Donc les bindings, c'est justement une autre nouveauté de Windows 8.1. Pour les développeurs qui avaient l'habitude d'utiliser WPF ou Silverlight, vous allez pouvoir un peu retrouver vos marques, disons le besoin que vous aviez en commençant à développer sur Windows 8. Donc la première chose, c'est pouvoir gérer justement les erreurs de binding. Si vous allez utiliser Default View Model, qui je vous rappelle est une espèce de HMAP en réalité, ou bien un Expander Object, il peut arriver que les propriétés n'existent pas, parce que ce n'est pas un lien fort comme un View Model classique avec des propriétés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a sur votre binding, vous avez la possibilité d'appeler le fallback value, qui est une valeur qui va être appelée lorsque la propriété n'existe pas. Deuxième possibilité, c'est le target null value. Donc, comme son nom l'indique, c'est quand la valeur est nulle, ça va prendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, plus d'excuses, justement, pour avoir des champs vides dans vos applications. Vous avez entièrement la main pour pouvoir gérer ça. C'est également l'arrivée des update source triggers qui vont permettre de gérer la mise à jour des données. Donc auparavant, qu'est-ce qu'on avait dans Windows 8? C'est le comportement qui est par défaut dans Windows 8.1. C'est si vous avez par exemple une propriété qui est bindée en mode two-way sur une textbox, la propriété va réellement être changée uniquement lorsque on perd le focus de la textbox. Donc avec les update source triggers, c'est des nouvelles possibilités par rapport à ça, à savoir le property change. Donc je vais me rendre immédiatement dans la page account, ici. Donc voilà, ici. Et je vais aller rajouter rapidement un petit snippet que j'ai préparé pour vous montrer de quoi je veux parler. Donc binding, update source trigger. Donc qu'est-ce que j'ai fait en réalité ici? Simplement rajouter deux autres textbox qui vont vous montrer les nouveautés, donc à savoir explicit et property changed. Donc c'est les nouvelles manières de mettre à jour vos applications. J'ai fait un petit bouton ici, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, overwrite. Et si je me rends dans la page account encore une fois, ici vous voyez, elle est bindée donc sur la propriété surname en mode two-way. D'accord? Donc du coup ici, si je clique sur F12, désolé, j'appuie sur le mauvais bouton. Voilà. Si j'appuie sur F12 pour aller me rendre à la définition de cette propriété, et ici, donc pareil, hein, ça c'est top. Je vais aller mettre un point d'arrêt sur le surname pour vous montrer à quel moment en réalité la propriété va changer dans le code. Donc je vais aller me rendre dans la page mon compte. Vous voyez ici, je vais taper par exemple moi c'est Maxime. Pour l'instant pas de mise à jour, c'est uniquement lorsque je perds le focus de la textbox que ça se met à jour bien entendu. Donc ça c'est le comportement default, si vous ne le spécifiez pas, c'est ce que vous avez. Et c'est le comportement que vous avez dans Windows 8 également. Property change, typiquement là je vais taper M, hop, tout de suite on se retrouve dans point d'arrêt. Donc, typiquement, c'est la valeur qui est contenue dans le contrôle, parce qu'il y a bien une chaîne de caractères qui est contenue derrière. Lorsqu'elle va être mise à jour, ça va mettre à jour votre propriété. C'est pratique, par exemple, si vous avez un champ de password et que vous voulez mettre à jour au fur et à mesure comment dire, des notifications, comme quoi il faut des majuscules, des chiffres, etc. Et l'explicit, donc c'est la dernière explicit trigger, c'est la dernière possibilité. Ici, vous voyez, je peux taper ce que je veux, quitter la textbox, il ne se passera jamais rien, à moins que je clique sur ce bouton, qui va aller m'amener dans la modification de la propriété. Alors ce bouton, en fait, tout simplement, il va aller appeler la méthode updateSource de la binding expression. Donc voilà, ça c'est pour la mise à jour des données. Et alors, le binding expression, j'en viens là pour dire que c'est pas tout sur les nouveautés, mais on va s'arrêter là. C'est toutes les nouveautés justement de binding. Vous allez voir ça, c'est dans le blend SDK. Donc, je vais laisser Romain sur la conclusion.
Alors voilà, donc pour cette version 8.8, pardon, pour cette version Windows 8.1, donc 8.8, on commence à aller vers quelque chose de vraiment fini. Sur cette version, donc Microsoft donc a ajouté en fait différents contrôles, mais aussi a mis à jour des contrôles permettant en fait tout simplement, ils ont répondu à un certain besoin des développeurs, certains besoins qui étaient exprimés par les développeurs. Ces mises à jour, ces nouveaux contrôlants viennent, viennent standardiser, améliorer un petit peu l'expérience utilisateur et améliorer grandement l'expérience utilisateur, donc en définissant ces standards. On a aussi, comme vu sur cette présentation, que Microsoft avait mis l'accent en fait à la fois sur les performances, mais aussi en fait sur les problématiques d'aujourd'hui telles que donc les différentes tailles d'écran, les différentes résolutions, avec l'apparition donc de ces nouveaux types d'appareils, ces nouveaux devices. Donc voilà, donc une belle mise à jour qui apporte un grand nombre de nouveautés très pratiques qui simplifie la vie des développeurs.
Alors moi juste retrouvez-nous sur le stand 47 si vous voulez voir Itelios. N'oubliez pas de donner votre avis parce que je vous rappelle qu'il y a un jeu Tech Days où vous pouvez gagner des jeux, des prix si j'ai bien compris.
Voilà. Donc, des claviers, des souris, des jeux voilà. Microsoft.
Donc on espère que ça vous a plu. Donc voilà, donc allez-y Windows 8.1, happy coding. Voilà.